Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
Introducing first,
Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas.
And now introducing his opponent.
C'est terminé! Victoire de Patrick Côté!
Merci beaucoup tout le monde au Québec!
Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Qu'est-ce que tu faisais, mon Pat, là?
J'attends. Oui, j'ai regardé mes notes, j'ai pas entendu le jingle. Désolé, c'est de ma faute.
Pour vrai? OK, là, tu m'entends bien au moins.
Oui, je t'entends très bien.
OK, c'est bon. D'habitude, t'es prêt avec le gros sourire
pour commencer,
crinquer après le jingle.
Mais c'est deux affaires. J'ai pas entendu le jingle, puis j'étais concentré sur ma casquette, parce que la semaine passée, j'ai reçu quelques critiques sur ma chevelure. Oh. Donc là, tout le monde disait que j'avais l'air fatigué, parce que j'avais les cheveux un peu tout croche. Ouais. J'ai mis une casquette aujourd'hui pour être sûr et certain.
Ouais, là, c'est peut-être moi, là, aujourd'hui, là, qui... J'étais allé freestyle aussi avec les cheveux. En tout cas, écrivez-nous si ça faisait quelque chose, mais bon. L'important, c'est qu'on soit là. Très heureux de te retrouver, mon ami, pour cet autre épisode. Merci à vous tous qui nous écoutez semaine après semaine, ou même si vous êtes là pour la première fois. On est très heureux de vous savoir avec nous. Un bon épisode aujourd'hui. Pas d'invité pour vous. La semaine passée, on avait Mickaël Dufort et Alex Morgan pour nous parler de Samouraï MMA. Alex Morgan a fait une performance incroyable vendredi passé du côté de l'Olympia. Ça s'est un peu moins bien passé pour Mickaël Dufort, mais on va faire le tour de ce qui s'est passé du côté de Samouraï. Le grand retour des arts martiaux mixtes au Québec. Pat, c'est une soirée formidable. Très hâte d'en discuter avec toi. Puis, bien sûr, on a fait le UFC ensemble cette semaine à RDS. Mm-hmm. Bon, un gros gala qui va passer à l'histoire, n'est-ce pas?
Écoute, 10 décisions sur 11 combats. D'habitude, c'est plus long que ça. Par exemple, je trouve que les combats ont quand même été bons. Quand même été bien, mais c'est sûr qu'on attendait, des finishes. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé vraiment. Là. C'est juste un avec le combat de Calderwood. Wood, et non pas Calderwood, Wood. On finit par l'avoir, ça. On finit par rentrer dans ma tête. Mais avec le combat de Wood. Mais écoute, ça a été quand même pas si pire pour une carte qu'il n'y a pas eu vraiment gros des finishes.
Ouais, exactement. Et puis ça roulait bien en plus. Puis on en parlait durant l'émission, durant une pause. Là. D'habitude, ces galas-là où il y a beaucoup de décisions, c'est interminable. Ça finit à 1h du matin parce qu'entre les combats, il y a vraiment. C'est espacé tout ça. Mais depuis que c'est à ESPN, ça fait maintenant quoi, 2 ans, peut-être un peu plus. Là, ça roule. Ça roule vraiment plus qu'avant.
Ouais,
je pense que ça aide à ce niveau-là aussi.
Puis tu sais, Ben, je pense que les dieux des arts martiaux mixtes, ils ont fait payer un peu samedi pour les deux galas, galas d'avant incroyables qu'on a eus. Donc, ils disent, OK, on vous en a donné deux solides avec probablement les deux meilleurs combats de l'année. À cette heure, ben, regarde, on vous en a donné un petit peu, un plus normal.
Ouais, j'ai vu un meme, là. j'ai vu un meme là-dessus, d'ailleurs. C'était quand même assez drôle. Je pense que c'est notre ami Aaron de TSN qui avait mis. C'était quelque chose comme une entrée, comme des mets d'un grand restaurant, là, l'entrée de luxe, le repas avec la queue de homard et tout ça, le plat principal, puis le petit dessert à la fin, les petits bonbons que personne mange, là, c'était le gala dans la fin de semaine.
Les petites papermans,
dans ce cas, bref. On va revenir quand même sur l'UFC de cette fin de semaine un petit peu plus tard à l'émission. Mais parlons de Samouraï, Pat. Malheureusement, tu ne pouvais pas être là. J'ai décrit les combats, ça va être diffusé sur les ondes de RDS au cours des prochaines semaines. Juste la vibe, je veux juste remercier et féliciter surtout l'équipe de Samouraï, Daniel Lafond, Manu Molinier, le matchmaker, parce que c'était pas facile. Même juste avant, en arrivant à l'Olympia, là, moi je suis arrivé vers 5h, le gala était à 7h. La régie, ça a été compliqué apparemment là, avec les règles sanitaires et tout ça. Je sais pas si ça a passé proche d'être annulé, là, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la régie à l'Olympia. Puis là, il a fallu survivre de bord à la dernière minute. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, juste pour vous dire qu'à jusqu'à la toute dernière seconde, là, il fallait apporter des ajustements pour présenter le gala. Mm-hmm. Finalement, il y a eu lieu 6 combats, tous excellents. La foule était là également. Il y avait à peu près 500 personnes. C'était salle comble, l'ambiance était parfaite. J'ai vraiment apprécié le retour des arts martiaux mixtes, puis il était temps.
Oui, je suis content que tu me dises que finalement ça a eu lieu parce que moi aussi j'en ai entendu parler que le gala à cause. C'est sûr qu'avec les règles sanitaires et tout, tu sais, ça, c'était compliqué. Mais imagine si ça avait été annulé. Là. Tu sais, pour les combattants, ça a été vraiment dommage, mais imagine pour Daniel Lafont, imagine pour tous ceux qui ont mis beaucoup de temps derrière de ça, de l'argent également. Puis écoute, je pense que c'est bien. Il faut que ces galas comme ça recommencent ici au Québec. Moi, de ce que j'ai entendu beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé. La vibe était super la fun, ça a été un succès, le monde était au rendez-vous, les combats étaient bien. On se souviendrait, ils ont perdu deux combats vraiment à la dernière minute un peu parce que dont Tommy Morrison n'a pas été pu se battre à cause du nouveau règlement de la régie qu'il faut passer, faut se faire évaluer par un évaluateur. Ouais. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on avait parlé que ça n'arriverait pas avant mars. Ou avril, et ça veut dire que c'est pas avant juin, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais là, j'ai parlé à Tommy un matin, on s'est vu, il m'a dit qu'en février, il va être capable de se faire évaluer, et le deuxième gala samouraï, c'est supposé être en février, donc finalement, on a accéléré le processus pour avoir un comité pour évaluer les combattants qui sont 0-0 en martiaux mixtes professionnels, et finalement, on va être capable de donner des combats à ce monde-là qui ont quand même beaucoup de combats amateurs, mais qui ne sont pas reconnus avec la Régie du Québec.
Ils n'ont pas demandé de faire partie du comité, finalement?
Non, je suis curieux quand même de savoir qui va passer les évaluations. J'espère que c'est quelqu'un... Puis là, je vais faire attention à ce que je vais dire. Là. Je ne veux pas dire que le monde à la Régie sont incompétents, mais j'espère que c'est quelqu'un qui va être compétent, qui va connaître les arts martiaux mixtes et non pas un dérivé d'un juge de boxe qui va... Parce que si c'est ça, ben faites-en pas juste d'évaluation. Tu sais, je dis ça change, ça change rien. Tu sais, je sais pas s'ils ont une charte à regarder, je sais pas. Écoute, c'est comme ça, mais j'espère que tu sais, au moins ils vont prendre quelqu'un de crédible pour justement donner une valeur sérieuse à leur évaluation.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais suivre le dossier. Ça m'intrigue aussi de savoir qui va être sur le comité. Pas nécessairement qui va être sur le comité, mais à savoir quels seront les critères, surtout d'évaluation, pour donner une licence. Mm-hmm. Puis je comprends, puis je suis 100% derrière le fait d'être de protéger les athlètes, leur sécurité et tout ça. Je suis pas d'accord avec la façon dont ça s'est fait. On en a parlé à l'émission à la toute dernière seconde, deux semaines avant le gala. Ah, finalement, vous n'aurez pas votre licence pour ça. Ça sort un petit peu de nulle part. Cette façon, ça, j'ai pas aimé ça, mais je veux dire, je peux pas être contre le principe de dévaluer les combattants puis d'assurer la sécurité. Là.
Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je suis pas contre le principe, mais je suis juste exactement comme tu as dit, c'est arrivé comme une balle du champ centre. Personne n'était au courant. Tu sais, je veux dire, nous autres, on baigne là-dedans, on n'a pas été au courant, mais imagine ceux, le promoteur qui avait des combattants là-dessus, t'es pas au courant non plus. Là, ça arrive à la dernière minute, puis on y enlève des combattants, on enlève de l'argent dans ses poches, parce que ces gars-là avaient vendu des billets aussi, là. Puis tu sais, le monde voulait le voir. C'est une grosse déception. Puis là, après ça, ben c'est la curiosité, moi, que je pensais. Mais qui qu'on va mettre dans cette communauté-là? Qui va évaluer les jeunes, qui va être assez compétent pour dire, OK, lui, il connaît assez de technique, lui, il connaît... Parce qu'il n'y a pas le système... amateur n'est pas reconnu comme à la boxe. Il n'y a pas de fédération amateur dans martiaux mixtes. Donc, on va se baser sur quoi? Donc, ça prend quelqu'un qui a des bonnes notions. C'est là-dessus qu'on va se baser pour donner l'accréditation à des combattants.
Exactement. Donc, un dossier qu'on va surveiller. Revenons sur les combats, Pat. Bon, je parlais d'Alex Morgan qui a fait une performance sublime. Vraiment une clinique de striking, de combat debout contre Majed Amo qui était... champion, lui, d'une organisation dans l'Ouest canadien. C'est pas compliqué, là, Pat. Ça s'est terminé au quatrième round. Alex Morgan a vraiment prouvé qu'il était dans une catégorie supérieure. Il y a juste eu un moment, et je sais pas si tu as vu des faits saillants ou tu en as entendu parler, mais je pense que c'était à la fin du premier ou du deuxième round où Alex, pour une raison ou pour une autre, ça allait tellement bien debout. Il avait son adversaire contre la cage. Il allait de frappe et tout ça, puis à un moment donné, il a décidé de tenter d'amener au sol, puis il s'est mis dans une guillotine lui-même. Une erreur. Je pense que dans son coin, on a dû lui dire, et je pense même qu'il avait fait rase, dans son coin, on a dû lui dire, là, c'était peut-être pas la meilleure idée, puis on s'est posé la question, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va se faire passer une soumission? Finalement, il s'en est sorti, mais vraiment une grosse performance d'Alex Morgan.
Oui, il en avait parlé, il nous en avait parlé aussi, hein, qu'il y avait la claque pour être capable de terminer le combat. Écoute, des rounds comme ça, il y en a qui vont dire, il est quand même gagné au quatrième round. Oui, mais des rounds comme ça, là, c'est juste bon pour l'expérience. Ça nous a démontré encore une fois, comme tu l'as mentionné, qu'il était une coche supérieure. Je veux dire, s'il gagne au premier round avec un gros punch, là, plus de monde va dire, OK, l'autre, il s'est fait surprendre. L'autre, c'était un lucky punch. Mais là, il nous a démontré qu'il était meilleur à part un certain moment dans le combat, mais ça reste un combat. Je veux dire, tu peux tomber dans le trouble, même si tu domines ton adversaire. Mais il nous a démontré que je pense que Alex Morgan est prêt pour passer à un niveau supérieur au niveau des organisations. Très, très bon. Puis j'ai bien aimé son entrevue aussi. Il parle beaucoup. Hein. Il nous a pas laissé parler beaucoup la semaine passée.
C'est vrai.
Mais c'est correct. C'est facile à passer l'entrevue, ces gars-là. Puis c'est le fun parce qu'il y a quelque chose à dire. Puis c'est pas juste, il pète à ailleurs, je suis meilleur que lui. Tu vois que le gars, il a une école, c'est un bon pédagogue. Puis il connaît bien le sport, pas juste au niveau physique, mais psychologique aussi. Moi, j'ai adoré l'entrevue qu'il nous a donnée la semaine passée. Puis il est capable de livrer la marchandise quand c'était le temps. Puis c'est ça qu'il a fait vendredi.
Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, Majed Amo n'avait jamais perdu par KO dans sa carrière. C'est un gars expérimenté quand même. Donc, le fait qu'Alex ait réussi à le mettre hors de combat, c'est quand même un bel accomplissement. Ouais. Il a dit après le combat, dans son entrevue à la salle, à l'Olympia, il était crinqué, là. Il était crinqué. Il a dit, je vous l'avais dit, je suis le meilleur 145 livres au Canada, le meilleur poids-plume au Canada qui n'est pas à l'UFC. Charles Jourdain est à l'UFC, TJ Laramie est à l'UFC aussi, ils sont dans cette catégorie de poids-là. Puis là, j'ai vu.
Et Morgan a déjà battu TJ Laramie.
Deux fois, par KO.
Deux fois, exact.
J'ai vu Alex aujourd'hui, puis tu parlais de passer au prochain niveau, là, il l'a dit, là, arrêtez, là, je suis trop fort pour la ligue ici. Là. Puis c'est rien contre Samouraï, là, c'est rien contre l'organisation, mais il veut passer au prochain niveau, c'est-à-dire l'UFC, une organisation majeure, entre guillemets. Puis j'ai vu même aujourd'hui sur ses médias sociaux, il a dit là, il a tagué Dana White, il a dit faut qu'il m'appelle, il faut qu'il me donne ma chance, je suis rendu là dans ma vie. Je suis plus dans les organisations régionales, je dois passer au prochain niveau. Mais là, j'ai le goût de te demander, Pat, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, c'est une chose de gagner à Samouraï, c'est une chose de taguer Dana White sur Facebook. Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, selon toi, pour attirer l'attention de l'organisation si c'est pas déjà fait?
Mais lui, il a fait ce qu'il avait à faire.
Okay.
J'imagine qu'il y a un gérant, j'imagine qu'il y a une équipe autour de lui. Et j'imagine, tu sais, il y a Tristar qui a quand même un poids dans la balance, qui est connu, qui a beaucoup de combattants dans l'organisation. On peut utiliser Tristar comme marchandise aussi pour négocier quelque chose. Il faut que l'équipe autour de lui l'aide aussi. Tu viens du Tristar, puis tu as déjà des combattants qui sont au Tristar. Tu peux utiliser ça comme
levier
de négociation. Il y a son gérant aussi qui a un travail à faire là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, son gérant, c'est sa job à lui d'aller chercher des combats, de pousser pour lui. Parce que Morgan, son travail à lui, c'est de gagner les combats, terminer ses adversaires. Il l'a fait, la job. Fait que là, il faut qu'il se fasse aider. Il faut qu'il se fasse aider du monde qui sont autour de lui. Lui, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que de gagner ses combats de la façon qu'il gagne. Là. Donc lui, il a fait la job. À cette heure, c'est gérant, j'imagine qu'il y en a un, je ne sais pas c'est qui, mais c'est à son gérant maintenant et à son équipe de l'aide.
Oui, tout à fait. Puis si jamais ça ne fonctionnait pas pour une raison ou pour une autre, il est supposé avoir un autre Samouraï au mois de février. Fin février, c'est la date, c'est la période qu'on a fixée pour le prochain gala Samouraï. S'il n'a pas eu de combat avec l'UFC ou une autre organisation, est-ce qu'on va lui demander encore de faire la finale? Là, puis là, contre qui? C'est ça la grosse question aussi, parce que comme il nous disait en entrevue, ça a été difficile de trouver un adversaire potentiel.
Ouais. Ce qui est bon pour lui, là, présentement, c'est que, tu sais, tu regardes dans le contender présentement, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de Canadiens qui ont été invités quand même.
Le Contender Series, oui.
Ouais, c'est ça que j'ai dit?
Oui, tu as dit Contender, mais oui.
Okay, on
parle de Dana White Contender Series. Oui,
ouais, exactement. Donc, puis là, tu sais, je veux dire, là, il y a Johan qui a réussi à rentrer avec un chaos spectaculaire. Donc, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de Canadiens cette année, dans la saison 5, qui se sont fait appeler. Il y en a qui ont gagné également. Il y en a qui ont eu des contrats. Fait que, tu sais, là, je veux pas dire qu'il y a eu un snobisme pendant un petit bout du côté du Canada, mais on regardait un petit peu moins. Mais là, on commence à revenir repiger dans le Canada, beaucoup plus avec Dana White Contender. Donc, je pense que ça serait une belle avenue pour lui. Le problème de Morgan, c'est qu'il n'est pas sur une séquence de victoire très, très longue non plus. Donc, c'est ça son plus. Son épine présentement dans le pied, c'est ça. C'est sa séquence de victoire qui est à deux, je pense.
Ouais,
exact. Fait que c'est pas. C'est dur. De rentrer directement dans le gros show avec juste deux victoires, à moins qu'il remplace à la dernière minute. Ça se pourrait. Sauf que ce que je vois présentement avec Dana White Contender, on appelle beaucoup de Canadiens. Ça pourrait être une option intéressante pour lui. Mais encore une fois, il a fait la job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais lui, là, il peut pas faire grand-chose. Il peut pas commencer à envoyer promener tout le monde pour avoir des challenges, puis commencer à foutre la merde sur les réseaux sociaux. Là, si c'est pas ça sa nature, ça va sonner faux de toute façon. Puis ça veut pas dire que ça va marcher non plus. Et, fait que là, à cette heure, c'est son équipe de l'aide.
Ouais, sauf erreur, le problème aussi, un des problèmes aussi, c'est que Contender Series, c'est l'été. Donc, il y aura, la saison 5 vient de finir. Là, j'imagine que ça ira pas avant l'été prochain. je pense qu'il est un petit peu plus pressé que ça, Alex Morgan.
Mais, je comprends.
Mais comme tu as dit, il a fait le travail. Superbe performance, victoire par KO technique contre Majid Amo au quatrième round. Ça s'est moins bien passé pour Michael Dufort. Malheureusement pour lui, il se battait pour la ceinture à 160 livres contre Cal Purple Lake, un adversaire ultra durable. On va lui donner ça, un gars...
Ouais.
On a vu que l'expérience de Purple Lake a payé. Son plan de match n'est pas compliqué, c'était d'y aller en contre-attaque, de ne pas se faire amener au sol par Michael Dufort, qui est ultra solide avec sa guillotine. Mick n'a pas eu la chance d'utiliser ces outils-là, son jiu-jitsu. Et je pense, Pat, qu'il a peut-être pas suivi le plan de match de son équipe. C'est-à-dire qu'il était très... C'était spectaculaire, là. Il a tenté des choses en combat debout, mais je l'ai trouvé un petit peu échevelé, Michael Dufort, puis je pense qu'il a peut-être coûté le combat.
Ouais. J'ai comme l'impression, exactement, puis j'en ai parlé aussi avec d'autres membres, puis le plan de match n'a pas vraiment été suivi comme tel. Il y a eu beaucoup d'improvisation dans ce combat-là. Michael Dufort s'est beaucoup amélioré au niveau du combat debout, donc peut-être qu'il voulait montrer ses nouvelles qualités au niveau du combat debout, mais au bout de la ligne, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes à ton instinct, à tes forces. Il faut que tu reviennes rapidement. Je veux dire, c'est pas rendu au troisième ou au quatrième round qu'il faut que tu tentes de les amener au sol. Les gars sont fatigués, les gars sont glissants.
Ouais.
Je sais que le plan de match était d'essayer de lutter, d'amener au sol en début de combat, ce qui n'est pas arrivé. J'ai cru croire aussi que on n'était pas satisfait de la manière qu'il avait approché le combat parce qu'il y avait eu beaucoup trop, justement, d'improvisation. Des choses qu'on n'avait pas parlé ou qu'on n'avait pas pensé faire. Et finalement, ça a sorti un peu tout croche. Et là, je lance pas la pierre à Michael Dufort, pas du tout. Je pense que lui-même était très déçu de la manière que le combat s'est déroulé. Sauf que, tu sais, c'est malheureux pour Michael Dufort parce que je pense dans une carrière, tu as toujours des combats qui sont pivots, qui vont te faire sortir, qui vont t'amener à un autre niveau. Et ça, je pense, pour Michael Dufort, c'était justement un combat pivot. Ouais. Il se battait contre un ancien combattant de l'UFC, un gars qui était connu au niveau de son nom, qui était accessible à la victoire. Moi, je pensais vraiment que Dufort aurait été capable d'aller chercher cette victoire-là. Et je croyais vraiment que c'était accessible. Malheureusement, il est arrivé à court. Une décision partagée, c'est une décision qui était serrée, mais c'est pas un vol. Donc, c'est une décision qui était serrée. Malheureusement pour lui, ce combat-là, je pense que ça va l'éloigner encore. Je pense qu'il a fait deux pas de recul avec cette défaite.
C'est dommage. Ouais, tu parlais de décision partagée, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, là, mais il a perdu donc par décision partagée. Il y a un juge qui lui a donné le combat, trois rounds à deux, si je ne m'abuse. Les deux autres sont allés du côté de Purple Lake. De mon côté, personnellement, ringside, cage side, puis je lui ai dit après, puis je vais vous le dire ici, j'avais donné la victoire à Michael. Il a perdu les deux premiers rounds dans mon esprit. Il a voulu se battre debout avec Purple Lake, qui était très, très vif en contre-attaque. Puis il a fait du dommage dans les deux premiers rounds, Purple Lake. Michael a vraiment pris du poil de la bête à partir du troisième round. Troisième et quatrième, je lui ai donné ces rounds-là. Ce qui est arrivé, le cinquième était ultra partagé. Les deux gars étaient à bout de ressources. Ça a vraiment été une guerre, là. Ça a vraiment été une guerre. Puis, ce qui a peut-être vraiment fait pencher la balance, c'est à la toute fin où il y a eu un gros slam, une grosse amenée au sol de Triple H qui a soulevé Mikal puis qui l'a amené. C'était spectaculaire, c'était bien. Il a fait la même chose à la fin du quatrième round, mais celle du cinquième était vraiment encore plus spectaculaire. Et puis le round était plus serré aussi, le cinquième, que le quatrième. Ça a peut-être scellé le sort de Mikal Dufort. Donc, là non plus, ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Puis Mick, il était vraiment, vraiment déçu. Puis ouais, j'espère que ce ne sera pas un trop gros pas de recul. Personnellement, j'irai avec une revanche. Là. Si Purple Lake est intéressé... Téléphone, Pat, n'est-ce pas? Purple Lake, s'il est intéressé à faire une revanche avec Mick Dufort au mois de février, pourquoi pas? Comme je vous dis, c'était ultra serré. Puis je pense que... Puis tu connais l'entourage de Mikal. Je pense qu'on va aller faire nos devoirs de leur côté aussi. Hein.
Ouais, mais je pense que Mikal est assez... Il a les yeux assez ouverts pour voir ce qu'il n'a pas fait de correct. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai su ce qui s'est passé après le combat aussi. Il était très, très, très déçu. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il mette de côté puis pas qu'il l'oublie, qu'il apprenne de ce combat-là, mais il ne faut pas que ça vienne le hanter non plus.
Non.
Il faut qu'il mette ça dans une case d'apprentissage et non pas de hantise. Ah, si j'avais gagné ce combat-là, je serais ailleurs. Si j'avais... Ça, il ne faut pas qu'il rentre là-dedans. Ouais. Il faut qu'il rentre plus dans une petite boîte, donc mettre ça à côté et il dise « OK, ça, j'ai pas fait ça correct. Ça, j'ai pas fait ça correct. » Mais il ne faut pas qu'il rentre dans le « Ah, si j'avais gagné. Si je serais rendu où, Parce que là, ça finira plus. Mm-hmm.
On va vouloir reparler à... On va leur reparler de toute façon à Mick et à Alex pour parler de revenir sur leur combat. Je voulais laisser un peu de temps à Mikal là, aussi après la défaite, tout ça, mais puis j'ai hâte de l'avoir en entrevue à tête vraiment reposée dans deux, trois semaines après le combat pour justement voir comment il va approcher la suite des choses. Parce que c'est ça, c'est une chose de perdre, de façon crève-cœur comme ça, mais de voir comment aller. Puis à regarder ses médias sociaux, je pense qu'il a la bonne attitude, là, tu viens de le dire. Utiliser ça comme tremplin, utiliser ça comme façon d'apprendre. Puis j'ai hâte de lui parler pour voir justement comment il va se relever de cette situation-là. Rapidement, les autres résultats. Strania Gavrilovic qui a battu Jonathan Bosuku, un Français, par KO. C'était spectaculaire. Gavrilovic, laisse personne indifférent, Pat. C'est tout un personnage. Il s'est présenté là avec ses cheveux mauves. Ça a duré 49 secondes. C'est pas compliqué. Il a complètement détruit son adversaire. Il a eu sa licence, son permis à quoi, même pas une semaine d'avis. Là. C'était dans la semaine précédente, les jours précédents le combat, on a appris qu'il avait pu se battre. On connaît tous les démêlés qu'il a eu avec la justice au cours des dernières années. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de Strania Gavrilovic? Qu'est-ce que tu penses de son... pas qu'est-ce que tu penses de lui, mais qu'est-ce que tu penses de lui comme combattant, en fait? Puis est-ce que c'est un gars qui peut dépasser la scène régionale? Puis peut-être juste vous dire, il a mis au défi Steve Bossé, là. Fait que je pense que lui, il a sa tête sur des gros combats locaux. Steve, ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu. Je pense qu'il est ailleurs, là, à suivre.
Ça, ouais, pense,
qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, non, on va oublier ça tout de suite, là. Je pense pas que Steve va revenir... revenir à la compétition pour Strania. Écoute, on savait que c'était quoi le style de Strania. Tu sais, c'est beaucoup de violence, ça va par en avant, c'est un peu tout croche, puis tu sais, c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Oui, il donne un bon spectacle, mais est-ce que tu penses qu'il peut aller... Est-ce que moi, je pense qu'il peut aller plus haut que dans d'autres organisations puis devenir tu sais, vraiment une force? J'ai des doutes, honnêtement. Mais écoute, pour donner un spectacle, ben, c'est sûr que tu mets dans un combat puis le monde va être moins satisfait de ce qu'il va donner.
Ah, puis tu sais, je pense que ça... Il était une des vedettes locales. Tu sais, les Québécois qui se battaient, les vedettes québécoises qui se battaient en fin de semaine ont tous reçu un accueil incroyable, la foule, mais tu sais, on dirait que quand... Je pense que Strania, c'est le genre de gars qui a sa base de partisans. C'était le cas avec TKO, je pense, la gang de... ses amis de Sherbrooke, sa gang de Sherbrooke qui le suivent depuis un certain temps, qui se déplace pour lui, puis c'est un showman.
Absolument.
C'était beau à voir, puis c'était le fun de voir de retour, puis je lisais sur son parcours. Bon, sans entrer dans les détails, tout ça, on sait qu'il a fait des choses par le passé dont lui-même n'est pas fier, ça c'est sûr. Tente de vouloir de revenir sur le droit chemin, donc il faut lui donner la chance. de revenir sur le droit chemin. Il a fait de la prison. Semble qu'il est sobre, même aujourd'hui. Il y a eu des problèmes de consommation et tout ça. Sa conjointe est enceinte ou vient d'avoir un bébé en plus. Je pense qu'il vient d'avoir un bébé. Donc, bref. Si ça peut, s'il peut remettre sa carrière sur les rails, avoir du plaisir, avoir des gros combats, puis du donner en spectacle tout en restant sur le droit chemin, bonne chance à lui. Mais c'est un pas dans la bonne direction pour ce qu'il a fait samedi. Dans les autres victoires, rapidement, Frédéric Duprat, qui a été expéditif par étranglement triangulaire contre Patrick Connors, un protégé du H2O, Frédéric Duprat, s'est pas battu en quoi 3-4 ans.
J'aime bien Frédéric. Je ne connais pas personnellement, mais tu sais, j'aime bien. Ça a l'air d'être un bon kid. Puis, je trouve qu'il y a des belles qualités, tu sais, au niveau du jeu au sol. Là, tu sais, c'est un gars qui est slick. Tu sais, ouais. Il est capable d'aller chercher plein de choses de façon très sournoise. Moi, je l'aime beaucoup en tant que, comme je dis, je ne connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré 2-3 fois. Puis, ça a l'air d'être un bon kid avec la tête à bonne place.
Oui, effectivement. Puis, c'est une belle soumission. Il était contre la cage. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler. Puis, il a réussi quand même à faire taper son adversaire, donc c'était bien. Puis il y a eu également Maxime Poulain, protégé du Tristar Ferrazabi, qui a fait une bouchée de Guillaume Fortier, qui revenait, lui, 11 ans. Ça faisait 11 ans qu'il s'était pas battu, imagine. Je sais pas si on va le revoir, Guillaume Fortier, mais Maxime Poulain, le carcajou, qui était trop fort pour la Ligue, a passé une soumission rapide et puis a eu sa ceinture noire après son combat de Ferrazabi. Ça, c'est toujours des moments incroyables, hein, recevoir des ceintures. Surtout après une victoire comme ça.
Mais surtout après une soumission. Je veux dire, des fois, je trouve ça bizarre. Des fois, on voit au UFC, les gars, ils gagnent par knock-out, puis là, ils leur donnent une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ça fait pas de sens, ça. Mais après une soumission, oui, puis je suis content pour lui. Je veux dire, ceinture noire, c'est un accomplissement d'une vie. C'est long avoir une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Puis je veux pas dénigrer les autres arts martiaux, mais il reste que. On dirait que la ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il faut que tu travailles vraiment, vraiment fort pour l'avoir. C'est pas une question de juste connaître les techniques. C'est une question de performance. C'est une question d'être assidu aux entraînements, d'être assidu dans les connaissances. Puis, félicitations pour ça.
Toi, t'es ceinture quoi déjà? Rappelle-moi.
Ceinture noire, je suis dit.
T'es ceinture noire aussi? Non, en fait. J'allais dire, je pensais que t'étais comme ceinture mauve, là. J'étais dans le champ. je m'excuse, je voulais pas.
Mais tu sais quoi? Écoute, tu veux une anecdote bizarre?
Vas-y.
J'ai reçu ma ceinture mauve après que je me suis fait passer une soumission contre Travis Luther.
Wow, OK.
Ça, c'est encore plus bizarre, ça. Okay. Ça, c'est encore plus. Dans l'affaire, c'est que après mon combat contre Travis Luther, une semaine après, il y avait le passage de ceinture, puis il y avait un gros examen, puis on est allé. J'étais supposé de recevoir ma ceinture mauve de toute façon, mais finalement, c'est parce que je m'étais battu une semaine avant, je m'étais fait passer une soumission par Travis Luther, qui était ceinture noire dans ce temps-là, mais il est encore aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est assez bizarre.
Ouais, des fois, il y a une question de timing. Au moins, c'était pas dans l'octogone, là, c'est ça.
Non, c'est ça.
Et finalement, Pierre Thivierge, protégé de Lévi Labrie, qui a gagné par décision unanime contre Yacine Nasri. Mm-hmm. Lui devait se battre contre Tommy Morrison. D'ailleurs, ouais. Tommy l'avait déjà battu, Pierre, chez les amateurs. Bref, je pense que ça, c'est un combat qu'on risque de revoir dans les prochaines semaines. Là. Si Tommy peut avoir sa licence, là, ce qu'il devrait avoir.
Ouais, écoute, ça, là-dessus, on n'est pas trop inquiet là, pour que Tommy ait sa licence. Là. Il reste juste une question de logistique. Là. Mais oui, j'aimerais bien ça pour ce combat-là. Les deux se connaissent bien. Ils sont déjà battus en amateur. Début professionnel pour Tommy contre un adversaire qui est 2-0 en combat professionnel. Ça va donner une chance à Tivier aussi de venger sa défaite. Moi, j'ai bien aimé, j'ai vu quelques faits saillants de ce combat-là. J'ai bien aimé la lutte de Thivierge. J'ai fait des belles transitions, de single leg, double leg. J'ai trouvé que c'est beaucoup, beaucoup amélioré au niveau de sa lutte. Puis, oui, j'aimerais ça, un combat que j'aimerais vraiment, vraiment voir ça.
Et pour terminer sur Samouraï, ben deux gars dans les traces de pas de côté qui m'ont accompagné à l'analyse. Là, vraiment, gros job de Lévi Labrie. Qui a analysé tous les combats de la carte. En fait, 5 des 6 combats de la carte. Puis il a vraiment été très solide. Donc, Lévi, si tu nous écoutes, chapeau. Puis à pied levé, Lévi nous est arrivé au début du gala. Puis il a dit là, je peux pas analyser le combat de Pierre. T'sais, parce que c'est son coach. C'est pas son coach en chef. Il avait donné ce mandat-là à Richard. Parce qu'il était beaucoup avec Johan. Il était absent pour une longue période avec Johan quand vous êtes allé à Las Vegas ensemble. Donc, c'était Richard qui était le coach en chef. Mais. Il se dit, je me sens me sens pas à l'aise d'analyser le combat de Pierre. T'sais, c'est mon élève, je le connais trop. Puis mm-hmm. je veux être là, je veux vivre le combat à 100%. Tout ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Johan qui était là pour venir regarder le combat à pied levé. Il dit, ah ouais, ça va me faire plaisir et tout ça. Puis il a vraiment été solide aussi, Johan. Donc, chapeau aux deux analystes en herbe qui pourront qui commencent leur carrière dans les médias. Là. Je pense qu'ils ont bien aimé puis j'ai adoré travailler avec eux.
Il me reste encore 2 ans mon contrat, là. Calmez-vous.
Ouais, c'est ça. Là, 2 ans, puis en tout cas, j'espère aussi que tu vas essayer de re-signer. Mais bon.
C'est ça.
C'est un autre débat. UFC Pat en fin de semaine. Caitlin Vieira contre Misha Tate. C'était le gala principal, le combat principal du gala qu'on vous présentait sur les ondes de RDS2. Caitlin Vieira qui l'a emporté par décision unanime. Elle l'a pas volé.
Non.
Elle l'a pas volé, mais on se disait que si elle pouvait battre Misha Tate, un gros nom, ça pouvait peut-être la propulser vers autre chose. Et j'ai pas l'impression, malgré la victoire, qu'elle fera un gros pas vers l'avant. Et on a vu vraiment que, on le savait déjà, mais qu'il y a une méga coche entre Amanda Nunes et les autres femmes à 135 livres.
Ah, c'est jour puis la nuit, puis honnêtement, samedi, je me suis retenu parce que, tu sais, on est à télé, puis le monde nous écoute, puis ils veulent pas juste m'entendre chialer. Mais si je peux le faire un peu, Misha Tate, elle est pas meilleure qu'avant. Je sais pas qui a fait croire qu'elle était rendue une boxeuse. Je sais pas qui a fait croire qu'elle était rendue bonne debout. Elle est pire qu'avant. C'était pas chic, là. Sa technique de boxe avec sa main tout le temps en avant, qui aucun transfert de poids, qu'elle lance une carte postale à trois fois qu'elle lance un coup là, pour son adversaire. Je sais pas qui a fait à croire ou elle-même, ça pense que c'est une bonne boxeuse, mais ça n'a jamais été ça, puis ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Puis au niveau de la lutte, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'avant, elle a amené Oléon au sol, elle a amené plein de monde au sol. Et, tu sais, avant, c'était correct. Là, elle a complètement laissé ça de côté. Les 3 premières rondes, elle n'a pas essayé une fois d'amener Vieira au sol. Vieira, je comprends, c'est une ceinture noire chilésienne, mais elle, c'est sa force, elle est dessus, le ground and pound. Mais elle a essayé de boxer avec une fille qui est techniquement, clairement meilleure qu'elle. Elle a payé le prix. Puis je pense que la stratégie de Misha Tate était mauvaise, d'un bout à l'autre. Puis c'est à cause de ça qu'elle a perdu le combat. Je regardais ça, puis je disais, voyons donc, tu sais, je peux pas croire qu'en entraînement, on regardait ça, puis on s'est dit, Krent, t'es vraiment meilleur qu'avant. Parce qu'honnêtement, pour moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence. Puis tu sais, je veux pas trop y rentrer dedans, là, parce que quand même, elle revient après 5 ans, elle a donné naissance à 2 enfants. C'est quand même un exploit quand même, tu sais, à l'UFC. Mais je me fie juste à ce qu'elle dit avant. Tu sais, avant, elle se bat contre Vieira, elle parle déjà d'après. Elle parle déjà que, OK, moi, je suis un sniper maintenant. Je suis la fille qui va pouvoir placer des coups sur Amanda Nunes. Si je veux un combat revanche face à Holly Holm. Tu sais, elle parlait déjà après. Ça, je trouve ça bizarre qu'elle fait cette erreur-là pour une fille qui a tellement d'expérience, qui, à place de se concentrer, de parler sur Vieira, elle parle déjà de se battre contre Amanda Nunes. Elle parle déjà que, tu sais, et que ça, je pense que c'était une grosse erreur. Je pense qu'elle a pensé beaucoup trop après et pas assez dans le moment présent. C'est une autre raison. Il y a plusieurs raisons, mais c'est une autre raison pourquoi elle a perdu le combat.
Ben, clairement, on a fait de la promotion du gala autour de ça, autour du fait que Misha Tate, sa tentative de reconquête du titre, c'était juste de ça qu'on parlait. Est-ce que c'est l'organisation qui l'a poussée vers elle? Mais elle a joué le jeu là, à 100% aussi. Au niveau marketing et tout ça, pour vendre ce gala-là, je veux dire, il n'y avait pas d'autre choix à faire. On place Misha Tate en finale contre Caitlin Vieira. C'est clairement le A-side, comme on le dit. C'est clairement Misha Tate, même si elle était moins bien classée. Ouais. Parce que c'est une ancienne championne. C'est elle qui a un gros nom.
Puis le monde l'aime aussi. Puis tu sais, c'est l'histoire aussi. Une maman qui revient. Tu sais, l'histoire est belle. Là. Puis c'est une favorite de la foule. Puis c'est une excellente vendeuse.
Ça, c'est vrai.
C'est une excellente vendeuse. Moi, je parle juste au niveau de la performance. La performance était mauvaise. C'est tout. C'est point.
Beaucoup de respect, toutefois, entre les deux combattantes. Là, Caitlin Vieira qui... Je veux dire, elle a dominé en boxe. Sa contre-attaque était bonne un peu. Puis je parlais on parlait du fort contre Purple X. C'est un peu la même chose. Vieira a fait a laissé Michotte tenter d'aller vers l'avant, la garder à distance parce qu'elle était la plus grande des deux combattantes, puis a réussi à faire du dommage petit à petit avec son jab, avec sa boxe qui était un petit peu plus sharp. Mm-hmm. Mais je veux dire, avoir. Puis on est durant l'entrevue d'après combat, elle m'a dit: ah, ça m'a pris du temps de mettre en marche, tout ça, je respecte beaucoup Michotte, mais je pense que plus j'avançais, plus je trouvais mes repères et tout ça. Puis tu sais, on écoutait ça tout, puis moi, puis on se disait: ouais. Oui, mais ouais. Non, là, tu sais, je veux dire, ça
a été... Les deux dernières rounds, elle n'a pas fait grand-chose.
C'est ça, elle s'est contentée d'y aller avec un... Tu sais, elle savait qu'elle était un peu sur le cruise control, elle savait que si... Que juste en touchant avec son jab puis en contre-attaquant, elle allait être capable d'aller chercher la décision. Elle n'a pas eu d'instinct du tueur non plus, là.
Et là, mon acharnement aussi qui vient sur Michotte, qui n'a jamais réussi à changer son plan de match.
Ouais.
Tu sais, elle a fait exactement la même affaire. Elle a essayé 2-3 fois... d'aller au corps à corps pour travailler, mais c'était pas très crédible comme tentative. Donc, je sais pas, tu sais, elle n'a pas été capable de switcher pour le plan de match. Elle restait pareil, elle restait debout, puis elle se faisait taguer, puis ça a été ça. Ça a été ça probablement pendant les 5 ans.
Michotte, j'ai vu qu'elle a envoyé un message sur Instagram, je crois, ou en tout cas sur les médias sociaux, qui disait... Elle ne parlait pas de retraite, encore une fois, là. Elle a dit, j'ai encore l'impression d'être meilleur, de m'être amélioré là, par rapport à mon dernier combat. Je pense que je suis malgré la défaite, je suis sur une bonne, pas une lancée, là, mais je m'améliore de combat en combat après mon retour de 5 ans. Donc, elle n'a pas dit qu'elle accrochait une fois de plus ses gants. C'est un pas de recul pour elle. Puis pour Kathleen Vieira, j'ai hâte de voir. Là, la ceinture va être mise en jeu le 11 décembre. Amanda Nunes contre Juliana Pena. Puis on est. Mais je pense, elle, je veux dire, c'est pas un combat de championnat qui l'attend. C'est peut-être un combat de top 5, là, éventuellement. Elle était classée 7, elle a battu la 8e. Mais...
Mm-hmm. Je sais pas. Tu l'as dit tantôt, là, il y a Amanda Nunes et les autres. Est-ce qu'on croit vraiment que Juliana Pena peut battre Amanda Nunes? La réponse, c'est non. Mais la réponse aussi, c'est en arts martiaux mix, c'est ça la beauté des choses. Tu as bien beau être 1 million contre 1 quand elle cloche ça, mais il faut utiliser la marchandise. Le problème, c'est que Amanda Nunes livre la marchandise. C'est ça le problème aussi.
Ouais, tout le temps. OK, donc, à suivre, un combat qui... Le combat de demi-finale, moi, qui m'intéressait beaucoup. Je sais pas pour toi, Sean Brady, espoir invaincu, 14 victoires, aucune défaite, contre Michael Chiesa, qui était sur une superbe séquence, qui avait échappé grâce à une erreur, en raison d'une erreur, on va dire niaiseuse, là, de son dernier combat contre Vicente Luque. Ouais. À 170 livres, je trouvais qu'il avait sa place, il était même classé, quoi, il était sixième. Ouais. Mais a trouvé son homme en Sean Brady. Hein. Sean Brady, solide, je pense qu'il est puissant, solide sur ses jambes. Peut-être un petit point d'interrogation au niveau du cardio, par contre, parce que troisième round était à l'avantage de Chiesa, mais les deux premiers, Brady a dominé totalement.
Oui, mais Brady, c'est un combattant qui va vraiment physique. Hein. Il est au corps à corps, il lève ses adversaires, il travaille il tout le temps. Il est très fort physiquement, donc c'est sûr qu'on est au troisième round, il commence à être fatigué. Mais je veux rien enlever à Brady, mais je trouve beaucoup plus que c'est Chiesa qui a perdu le combat que Brady qui l'a gagné. Brady a fait la bonne chose, mais Chiesa, là, je sais pas ce qu'il faisait. Chiesa, les deux premiers rounds, on dirait qu'il était là pour le fun, il trouvait ça drôle. Il parlait à son adversaire. Oui, des fois, tu peux échanger un sourire comme même. Mais en vrai, là, si tu le fais pas, l'autre va le faire. Là, fait qu'à un moment donné, les deux premiers rounds, là, c'est-tu vraiment ma colle qui est ça? J'ai regardé, je sais pas ce qu'il fait. Je savais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Puis à la fin, il se retourne, part, arrive. C'est pas drôle, tu viens de perdre 2 rounds. il faut que t'aies la rage en dedans de toi, même si t'as du fun, même si ton adversaire, tu le respectes. Ça veut pas dire que t'es pas obligé de le frapper. Là. C'est pas mal ça le but du sport. Là. C'est pas mal ça le but du jeu. Là.
C'est ça.
J'ai trouvé que Chiesa était dans un mode amical pour un sport aussi violent. Tu comprends?
C'est comme s'il prenait ça comme un entraînement ou une session de sparring ou une session d'entraînement de jiu-jitsu, là, parce que c'est vrai qu'on ne sentait pas. Il a été pris hors position, puis c'est un as du jiu-jitsu, là, un des meilleurs de l'UFC, Michael Chiesa. Il a été pris hors position dans les deux premiers rounds le début des rounds, il était en mode défensif, en mode solution, en mode essayer de sortir du pétrin. Mm-hmm. Brady voulait absolument rien savoir, puis que ça, on dirait qu'il n'y avait pas la rage, comme tu dis, de tenter des choses, puis d'essayer vraiment de s'en sortir. C'est comme s'il subissait. Puis...
On dirait qu'il a cassé au premier round quand Brady l'a ceinturé pour la première fois. Puis là, il a essayé de faire ça, puis il s'est aperçu, oh shit, OK, il est peut-être plus fort que je pensais. Il savait qu'il était fort, mais peut-être pas de même. C'est vrai que Brady est très, très fort physiquement, on a entendu parler. Puis on dirait que là, ça l'a cassé. Puis là, plus les combats avançaient, moins il voulait se lancer par en avant, moins il voulait aller au corps à corps, moins il lançait des coups. Puis c'est ça. Là, au troisième round, il n'avait pas le choix. Fait que là, il est allé un peu en quinquasse. Là, il a touché, il a gagné le troisième round. Il a commencé le combat bien trop tard. Puis il a couru à sa perte à cause de ça.
Donc, Sean Brady, plus grosse victoire de sa carrière, ça c'est sûr. Il vient de battre celui qui était classé numéro 6. Est-ce que c'est un joueur, maintenant un joueur à surveiller à 170 livres, Sean Brady?
Ben là, il a dit que c'était le meilleur grappler à 170 livres. Donc, il a lancé ça partout. Là, Chimaev, il a dit, pas sûr, moi. Fait que Chimaev a levé le bras, mais il a dit, regarde, si tu veux y aller, on va danser. Chimaev veut se battre contre n'importe qui. Ouais. Pas n'importe qui, il veut se battre contre tout le monde. C'est plus, ça la définition. Pas n'importe qui, mais contre tout le monde. Il s'en fout. Il avait levé la main pour se battre contre Leon Edwards aussi pour remplacer Masvidal. Lui, là, c'est correct. Anyway, ses combats ne durent pas très, très longtemps. Sa confiance dans le tapis. Écoute, ça pourrait être quelque chose de le fun de voir. C'est sûr que Brady, son nom vient de prendre de la valeur avec une debate qui est ça, qui lui était sixième. Donc, il se rapproche du top 5 quand même assez dangereusement. Chimaev vient de battre la première fois un combattant qui était classé avec le Chinois. Hein. Donc, tu sais, ça pourrait être intéressant. On pourrait voir vraiment quelqu'un qui est un bon grappler, fort physiquement, parce que Chimaev, il suit tout. C'est un gros 170, puis il a l'air fort physiquement, ça n'a pas d'allure. Fait, tu sais, j'aimerais ça voir ce combat-là. Ça, c'est, moi, je suis acheteur.
Ah, je suis d'accord avec toi. Puis, Chimaev vient de faire un combat de lutte ou un combat de grappling en fait contre Jack Hermanson. Puis il a pas gagné, je pense que c'était un match nul là, sauf erreur, mais
non, il a gagné en prolongation.
Ah, il a gagné en prolongation, puis il a eu une solide amenée au sol quand même là, je pense que
il a eu deux dont un quand même assez solide qui l'a fait tourner dans les airs.
Puis Hermanson est un 185 livres, donc Chimaev serait capable là, de comme en grappling, là, je suis d'accord avec toi, Brady, Chimaev, ça pourrait être intéressant. Puis on sait aussi qu'il y a une grosse main droite, là, Chimaev.
Ben, les deux sont bons, solides debout aussi. Les deux quand ils solides.
OK. Victoire de Taila Santos contre Joanne Wood. Puis là, ben, regarde, expliquons ceux qui n'ont peut-être pas regardé le gars-là samedi. Ils se demandent c'est qui, c'est Joanne Wood. Puis là, tu as dit Calderwood tantôt. Oui, c'est Jojo Calderwood. Qu'on connaît, qui est une vétérane de l'UFC, qui est là depuis plusieurs longtemps, l'Écossaise, qui s'est battue notamment contre Valérie Letourneau. Et elle a pas juste décidé de couper la moitié de son nom de famille. Oubliez ça. En voulant s'appeler Joanne Wood, elle s'est mariée avec son coach de Syndicate MMA, le coach en chef du gymnase à Las Vegas, John Wood. Donc, elle a pris le nom de son conjoint. Puis là, ce qui était fascinant aussi, c'est qu'elle s'est mariée en plein camp d'entraînement pour son combat de cette fin de semaine contre Taila Santos. Elle s'est mariée, je pense, le 30 octobre ou le 31 octobre. Et là, je ne sais pas si c'est ça qui explique qu'elle a fait une contre-performance. Elle s'est fait passer une soumission par la Brésilienne Santos. Une solide à part ça. Ça a été le seul finish du gala. Bref, gros pas de recul pour Joanne Wood qui était dans le top 5. Puis la plus grosse victoire probablement de la carrière de Santos.
Ouais, deuxième défaite de suite pour Wood. Écoute, ça a été. Tu sais, c'était pas mort. C'était pas debout, là, ça allait quand même bien pour les deux. C'était assez égal. Mais à terre, ça a été une clinique. Là. Vraiment, ça n'a pas été très, très compliqué pour.
Ben, là, faut dire.
Pour
faut
son
dire,
adversaire.
Il
puis...
faut dire que.
Elle s'est fait sonner.
C'est ça, c'est fait sonner. Santos a sonné Joanne Wood. Avec une grosse il y a eu une première grosse combinaison. Après ça, Jojo est allé au sol, a réussi à retrouver ses esprits. Ça a été correct. On est de retour debout. La deuxième combinaison a sonné là. Puis ça s'est terminé en étranglement arrière par la suite. Mais Taila Santos, je la connaissais plus ou moins. On l'avait vu contre Roxanne Modafferi à sa dernière sortie. Elle avait juste lutté. Elle avait été chercher une.
Et c'est ça qui l'a mêlé, je pense, Wood. Il va l'avoir. Ça va rentrer, je te le dis, ça va rentrer. Mais c'est ça que Wood a dit après. Elle était sûre que son adversaire allait la lutter, comme qu'elle avait fait dans son dernier combat, mais elle est restée debout. Ça l'a comme peut-être dérangé dans son plan de match, puis elle n'a pas été capable, tu sais, justement de tourner sa vision de son plan de match vis-à-vis de celle de son adversaire, puis ça l'a dérangé, c'est ce qu'elle a dit.
Oui, exactement. Donc,
c'est ça, hein, les arts martiaux mixtes, c'est ça. Faut que tu trouves une façon de surprendre ton adversaire. Il est rendu à ce niveau-là. Tous les combattants se connaissent quand même bien. On sait c'est quoi les forces et faiblesses des autres. Fait que le but, c'est d'arriver au combat et surprendre ton adversaire sur quelque chose qui ne s'attend pas. C'est ça l'année de la guerre.
Pour Joanne Wood, donc deuxième défaite consécutive. Ça faisait un certain temps que ça ne lui était pas arrivé. Puis c'est le contraire pour Santos, qui, elle, est 19-1 dans sa carrière. 4 victoires consécutives. Elle vient de battre la numéro 5. Et là, je regardais les classements à 125 livres chez les poids mouches féminins. Andrade, ben, la championne Shevchenko, bien sûr. Andrade est classée numéro 1. Chukagian, numéro 2. Lauren Murphy, numéro 3. Jennifer Maia, numéro 4. Et là, tu portes à croire que ça va peut-être être Santos qui va être numéro 5 ou 6. Là. Mais ces 4 filles-là ont perdu de façon assez décisive contre la championne Shevchenko, qui a fait le ménage total de sa division. À la lumière de ce que tu as vu samedi, Pat, est-ce que Taïla Santos est prête pour affronter la grande championne? On n'est jamais vraiment prêt.
Ouais, c'est ça. T'sais, on y va par élimination. T'sais, elle a battu les 4 premières, donc là, on va aller à l'autre. Ça va être ça. T'sais, je veux dire, on y va par élimination, puis on va voir ce qui va arriver. T'sais, mais rappelez-vous hein, que Wood, elle se battait au championnat du monde, puis elle voulait rester active, elle s'est battue contre Jennifer Maia, puis elle a perdu ce combat-là. Tu sais, des décisions dans une carrière, ce que tu regrettes. D'après moi, celle-là, elle ne regrette pas à peu près, parce que là, elle s'éloigne vraiment beaucoup là, de combat au championnat du monde.
Ouais, 100%. Donc, à suivre le parcours de la Brésilienne Taïla Santos, qui vient de faire un nom. Puis, en tout cas, je trouve ça bizarre un peu, là, puis on en parlait, je ne sais pas si... C'était peut-être pas elle en particulier, mais t'as fait le commentaire samedi. Elle a pas voulu lancer de défi à personne. Elle a dit « J'ai quelqu'un en tête, mais je veux pas vous le dire tout de suite. » Puis t'as dit samedi soir que tu trouvais ça un peu niaiseux parce que c'est l'occasion idéale de mousser ta candidature pour un gros combat,
oui,
de créer des histoires et tout ça. Puis tu comprends pas, toi, que les combattants ne sautent pas sur l'occasion, là.
Non, exact. T'sais, tu n'as un nom en tête. Dis-le, tu donnes la vitrine, il donne l'occasion. Il donne le micro. C'est pas sur tes réseaux sociaux, ça va passer dans le bar, ça. T'sais, on s'en fout. Puis il y a plein de monde qui regarde la UFC qui ne suivent pas ses réseaux sociaux. Fait que, t'sais, il donne l'occasion. Si tu veux caler quelqu'un, t'es pas obligé de l'envoyer promener, là. Mais t'sais, prends l'occasion qu'on te donne. La lumière est sur toi. Prends-la. T'sais, si tu veux caler quelqu'un, c'est là. T'sais, puis l'UFC, ils sont écœurés du monde qui disent « Ah, moi, je vais me battre contre le gars ou la fille qui est en avant de moi, ça me dérange pas. » Là, les matchmakers sont même « OK, c'est correct. » Tu sais, ils ont besoin du jus, les matchmakers. Ils ont besoin de créer une histoire pour faire sortir les combattants pour les bâtir, pour devenir des stars. Si t'es plate, meilleur exemple, c'est Leon Edwards. T'es plate, ben t'as pas de combat de championnat du monde. Même si tout le monde sait qu'il en mérite un. Puis là, à cette heure, Leon Edwards, depuis 2 ans, là, il est un petit peu plus vocal. Il fait un peu plus de trash talk. Mais tu vois, là, on sait que là, c'est comme désespéré parce qu'il n'a jamais fait ça avant. Fait que ça passe un peu moins bien. Mais quand tu as l'occasion, il te le donne, le micro. Il dit, OK, tu veux-tu quelqu'un qui tu vas affronter? Là, au pire, il dit quelqu'un du top 5, quelqu'un là, tu sais, nomme 2, 3 noms, mais sans dire que c'est les insulter ou quoi de même. Il faut que tu fasses ça. T'as pas, avec le sport d'aujourd'hui, gagner n'est pas juste et pas assez pour devenir une superstar. Pour faire de l'argent. Gagnez pas ça.
Je pense que c'est Sean Brady qui, ça me revient, là, c'est Sean Brady qui avait aussi, en demi-finale, pas voulu nommer de nom.
Ah, puis c'est pas parce qu'il a pas essayé.
Il a pas arrêté. Là, c'est ça. Je pense qu'il voulait qu'il nomme Chimaev. Tu sais, comme, là, t'es sûr, là.
Ouais, peut-être.
T'es sûr, là. Puis là, 3 fois à peu près, en tout cas. Sean Brady a dit non, n'importe qui. Bref. Dernier combat, Pat, rapido, on va parler de Yanez contre Davy Grant. Adrian Yanez qui est qui lentement mais sûrement est en train de devenir un nom à surveiller dans la catégorie des 135 livres parce qu'il avait eu des bonnies de performance à chacun de ses 3 premiers combats à l'UFC. Ça a été pas mal plus compliqué pour lui cette fois-ci. Contre Davy Grant, ça a été une décision. Il a gagné par décision partagée. Grant n'était pas très content. Au moins les deux gars sont revenus, ont gagné 50 000 $. D'ailleurs, il y a juste eu deux. On vous parlait de la carte qui n'était pas super excitante. Là. Il y a juste eu 2 bonnies offerts. Un à Santos qui a fini Wood au premier round.
Ouais, ça me dérange.
qui a pas eu de 50 000, plus que 50 000, plus que 3
bonus. Non, mais donnez donc 100 000 à Santos. T'sais, vous êtes supposé en donner 4 de toute façon. Mais pourquoi en garder un? Il y en a juste un qui a fait une performance de la soirée. Ben, donnez-y le bonus de Spire qui reste. T'sais, pourquoi ils sont pas à 50 000 piastres près?
Christino.
Ça m'a dérangé.
Ah ouais,
c'est... Je veux dire, puis c'est un problème. Ce qui me dérange, c'est pas l'espèce de la fête de l'argent. C'est qu'à tous les 3 mois, il y a une nouvelle qui sort puis qui disent qu'ils ont eu leur meilleur trimestre à vie, l'UFC. Ils ont fait 875 millions de revenus, le meilleur trimestre à vie. Après ça, un autre meilleur trimestre à vie. Puis là, ils sont gratteux sur un boni qu'ils sont supposés de le donner de toute façon, qui étaient supposés de le donner, mais là, il y en a un qui n'est pas donné parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Bien, ne dénonce ce bonus-là, c'est la seule qui a réussi à faire un finish. Tu sais, 50 000 $ pour ce monde-là, là, ça change une vie aussi.
100%.
Puis là, elle aurait pu avoir 100 000 $. Moi, ça me dérange. Moi, il y aurait du... Je comprends pas pourquoi on lui a pas donné les deux bonnes performances. Ça aurait fait quoi, là? En tout cas, moi, ça m'a dérangé. T'es-tu sérieux? Tu supposé en donner 4? Non. On va en donner juste 3. On va garder 50 000 $. Ça va mettre du gaz dans notre jet privé. Non, mais tu vois, c'est ça qui me dérange, moi, là-dedans.
J'adore le pas de côté passionné comme ça qui prend le côté des fighters. Mais c'est un bon point. J'avais même pas réalisé ça. Je me suis dit, il y a personne d'autre qui. Je suis d'accord, il y a personne d'autre qui le méritait. Un bonnie. Mais t'as raison. Pourquoi pas le donner à Santos? C'est elle qui a donné le show. C'est la seule qui a réussi à donner un show, un finish. Et Yanez et Grant qui ont donné un bon combat. Ça a été une guerre. Yanez qui a fini ça avec une méchante oreille. Je pense qu'il a commencé à la vider d'ailleurs. Mais tu sais, rapido, là, je pense qu'il y a. Yanez qui disait avant le combat, je suis le meilleur boxeur à 135 livres, je suis meilleur que TJ Dillashaw et tout ça. Je pense qu'on vient de comprendre qu'il y a des croûtes à manger.
J'allais expliquer pendant le combat, je ne sais pas si tu t'en souviens, puis j'ai été très dur avec Yanez, puis ouais. Ceux qui sont des fans de Yanez étaient fâchés après moi, je m'excuse. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas dit qu'il était pas bon. Moi aussi, je trouve que c'est un excellent boxeur, mais il est très pareil tout le temps. Tu sais, tu regardes TJ Dillashaw, ça vient de partout, à gauche, à droite, il change de bord, c'est un bon lutteur, au sol, il est bon sur le ground and pound, il est capable de se relever, mais il est pas mal plus complet. Tu sais, tu regardes Yanez, il est très, très bon, mais il reste que ses attaques sont tout le temps pareilles. Il n'est pas capable de faire d'autres choses pour surprendre son adversaire. Puis quand tu vas commencer à te battre contre des adversaires qui ont beaucoup d'expérience, les meilleurs au monde, ils vont voir ta game tout de suite. Fait que ton setup que tu fais là, à toutes les fois, en dedans de 3 minutes, ils vont comprendre exactement c'est tout le temps ça que tu fais, puis ils sont bien de la misère à toucher la cible.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, à 135 livres, il y a des méchants bons strikers. Là. Juste comme ça, tu sais, je pense à Dillashaw, je pense à Corey Sanhagen, Pietorian. Le champion Sterling n'est pas un gros striker. Mais bref, tu sais, puis. Dominique Cruz, qu'on va voir dans quelques semaines aussi. T'sais. Lui aussi, le 121, ça peut venir de partout, puis il est peu orthodoxe et tout ça. Yanez, c'est un très, très bon jeune combattant. Il a 27 ans, je pense. Sa carrière, il est au début de sa carrière à l'UFC. 4 victoires consécutives quand même, 4 bonnies de performance. On veut absolument rien y enlever. Mais un bon combat comme ça, où il a connu de l'adversité, je pense que ça peut même juste l'aider à s'améliorer, justement. Il était aussi super émotif. La préparation était... difficile, son entraîneur, il avait perdu son entraîneur l'été dernier, il avait tout ça, on l'a vu, là, fond en larmes après, là il a dit je veux prendre un break, tu sais, je suis dû pour un petit break, là. Même en février, l'UFC est essentiel à Houston, lui c'est un gars de Houston, puis il dit autant que j'aimerais ça me battre chez nous sur un gros choix à Houston, je pense que je serais pas prêt, faut que je prenne plus de temps pour me remettre de tout ça, parce que ça a été vraiment incroyable, tu sais, le début de sa carrière à l'UFC a été très, 4 combats rapprochés et tout ça, là. Fait que bel avenir quand même pour Yanez, malgré malgré quelques petits reproches, entre guillemets, mais il n'y a pas un fighter parfait de toute façon. Puis il est allé chercher la victoire. Avant de finir, McGregor qui a dit sur les médias sociaux, Pat, je veux me battre. Quand je vais revenir, oubliez ça. Là. Oh, ça, j'aime ça. Oubliez ça. Quand je vais revenir, ça va être pour le titre à 155 livres. Après ça va être Poirier pour un 4e combat. Puis après ça, on verra. Je me bats contre qui je veux, quand je veux, c'est mes termes. Est-il un peu, comme on dit en anglais, delusional? Comment on dit ça en français? Là? Est-ce qu'il l'échappe encore un peu? McGregor est encore le roi et maître de son destin? Non.
Non, son étoile est très pâlie, beaucoup. Son étoile est vraiment, vraiment beaucoup pâlie. Je pense que c'est encore un gros Moneymaker, quand même. Quand ils vont revenir, le monde va payer pour le voir. Mais est-ce que sa puissance de star, de superstar, est encore élevée comme avant? Absolument pas. On a vu que son discours perdait beaucoup de valeur à son dernier combat. Son trash talk, son trash talk BS, honnêtement, là, c'était pas du bon Conor McGregor à son dernier combat. C'était du Conor McGregor genre réchauffé. Non, ça sonne pas bien. Ouais. On voit que c'était forcé. Avant, c'était naturel. Là, on voyait que c'était forcé. Il a essayé de revenir comme avant, mais ça marchait. On voyait que c'était du gros fake, du gros jeu. Avant, ça sortait, c'était naturel. Puis, moi, j'ai pas cru à son trash talk, le dernier combat. Puis, honnêtement, un combat contre Poirier, un quatrième, moi, je pense que ça va être très dur à vendre. Ça sera pas facile à vendre, ce combat-là, parce que je pense que Poirier va passer à travers encore une fois.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'il l'a, dans la tête. Écoute, je sais pas. Puis, honnêtement, là, je vois pas comment l'UFC pourrait justifier de mettre Conor McGregor dans le combat de championnat du monde en revenant.
C'est ça.
Ça fait pas de sens.
Surtout pas chez
cette catégorie de poids-là. Ça n'a pas de bon sens. Chez les 155 livres, oublie ça. La division est ben trop packed, est ben trop stacked. Il y a ben trop des bons combats qu'on peut faire avec Conor à 155 livres avant de passer à un combat de championnat du monde.
100%.
Ça serait... Écoute, j'ai de la misère à comprendre... j'ai pas de misère à comprendre ce qu'il fait, là, parce qu'il a tout le temps fait ça. Mais oui, délogénose, c'est exactement le bon mot que tu peux prendre.
Moi, le combat que je veux voir, c'est Holloway contre McGregor à 155. Mm-hmm. J'aimerais ça. Je pense qu'Holloway, je l'adore. Je l'aime d'amour. Je pense que c'est mon combattant préféré. Puis, il donne des coups. Tu sais, sa guerre contre Rodriguez, ses derniers combats, c'était des cliniques de boxe. Puis là, contre Rodriguez, il s'est fait aussi tester. Il a résisté. Son menton, jusqu'à présent, résiste à toutes les attaques. Là. Est-ce qu'il va résister à la gauche de McGregor? J'aimerais ça le voir. Il y a une histoire entre les deux. À 22 ans, Holloway a perdu contre McGregor. Donc, il y aurait peut-être une petite revanche à faire à ce niveau-là. Est-ce que Holloway est un peu pris à 145 livres? Là,
ouais.
Dans le sens, on ne sait pas si on va lui redonner un autre. C'est clairement l'aspirant numéro un, mais on ne sait pas si on va lui redonner un troisième combat contre Volkanovski. Donc, est-ce que lui va retourner à 155? Il avait fait une incursion, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Est-ce que ce serait vendable, là, ce combat-là, Holloway-McGregor? Mais,
ouais, beaucoup plus, je pense, que Poirier.
Okay.
T'as raison. Mais encore une fois, je sais pas. Je sais pas ce qui va arriver avec Conor, mais Conor, c'est Conor. Puis je pense qu'il est rendu une place, je pense qu'il est plus capable de retourner. Il est comme over the limit. Puis là, il sait plus comment revenir. Il est dans l'abus, il est dans l'abondance, dans tout. Fait que, à un moment donné, tu perds la notion de la réalité. Mais tu sais, quand t'as reçu des coups de poing dans la face, la réalité revient assez rapidement. Tu sais, c'est peut-être ça qui va y arriver quand il va revenir.
Exactement. OK, rapidement, Dan Hooker, je sais pas si t'as vu, il a fait un pesé test sur ses médias sociaux hier. Réussi à faire la limite des poids plumes, 146 livres. Dan Hooker à 146 livres. Dans ma tête, c'est un gros 155 livres. Ouais. Il est grand, oui. Il a réussi à faire 146. Je sais pas si c'est son plan de carrière. C'est sûr que lui a servi un peu de char à canon à Islam Makhachev à sa dernière sortie avec court délai contre un combattant ultra solide en Makhachev. Donc, il a peut-être besoin d'une étincelle dans sa carrière. Est-ce qu'il va vraiment descendre à 145 dans nos cœurs? Puis si oui, est-ce qu'il peut faire du dommage dans cette division-là? Qu'est-ce que t'en penses?
Absolument. Écoute, je pense pas qu'il ait fait ça pour le fun. On s'entend. Je pense que c'est plus un espèce de statement pour un choix futur. Mais oui, je le vois très bien à 145. Écoute, à 155, ça a été difficile ces derniers combats là, pour à 155 pour Dan Hooker. C'est sûr que
c'est parce qu'on voit de Hooker qu'il est un nul. Il est vraiment, vraiment solide. Mais dans cette division-là, il est top 5, mais T'sais, quand il s'est battu contre Makhachev, il a perdu. Quand il s'est battu contre Chandler, il a perdu. T'sais, les combats qui auraient pu l'amener en combat de championnat éventuellement, c'est un petit peu trop pour lui. Là, t'sais, fait qu'il il est à cette limite-là. Là.
Mais à 145, tu sais, moi, Dan Hooker contre, contre Max Holloway, moi, je suis partant, et pas à peu près à ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, où je pense que. S'il est capable de le faire, en restant en santé, why not?
Il y a Barboza, Hooker, ça s'est déjà vu, ça. Juste comme ça, là, je viens de flasher. Barboza, Hooker, ils se sont battus ensemble.
Ouais.
Et finalement.
Puis Barboza avait gagné, mais Hooker avait tout pris ce que Barboza lui avait donné quasiment.
Puis Barboza, c'en est un qui a fait le qui est descendu à 145 aussi. Donc, ce serait pas de jamais vu. Puis, ouais, effectivement, ça pourrait rajouter un autre piquant dans cette division-là qui est aussi super intéressante à 145. Bref, à suivre, Dan Hooker qui a réussi à faire le poids. Comme tu dis, il a pas fait ça pour le fun. Donc, parce que tu ne soumets pas à ça pour le plaisir. Je pense que Pat peut en témoigner.
Ah non, pas à tout. Il
n'y
a rien de le fun là-dedans.
OK, Pat, merci énormément. Écoute, avec tout ça, ça fait une heure qu'on jase. C'est encore une fois toujours ultra intéressant. On se reparle la semaine prochaine pour un autre dans la cage. On va mettre la table pour le prochain gala de l'UFC. Rob Font contre Jose Aldo, un combat important à 135 livres. Merci beaucoup, mon ami. Merci à tout le monde qui nous écoutait. Vous savez nous trouver sur toutes vos plateformes où vous téléchargez vos podcasts. Dans la cage. Ciao tout le monde, à bientôt.